Notre entretien sur la famille va se dérouler de façon un petit peu différente que d'habitude, de façon à laisser quand même le plus de place aux amis pour s'exprimer, poser des questions, ajouter des compléments d'information. Le montage que je vous présente, en fait, est un montage un peu écourté parce qu'à l'origine, c'était un montage qui était destiné à un groupe de jeunes que nous avons présenté en avril dernier. Donc, ça durait à peu près environ 1h30. Donc, je l'ai ramené à peu près à 30-40 minutes. Donc, j'ai enlevé un certain nombre de choses. J'ai laissé quelques réflexions qui sont un petit peu humoristiques. Vous m'en excuserez si ça vous choque. J'ai enlevé également tout ce dont nous avions plus ou moins parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire notamment l'homosexualité. On avait un peu parlé du divorce, donc ça je l'ai laissé aussi de côté. Éventuellement, on en reparlera d'ailleurs plus tard. Donc, il ne faut pas vous étonner s'il y a des aspects qui ne sont pas du tout abordés. C'est volontaire et c'est dans le souci de courter au maximum. Alors, on pourrait d'abord peut-être se poser la question, pourquoi traiter ce sujet et en plus le traiter dans une réunion de ce type? Eh bien, qu'on le déplore ou qu'on s'en accommode, la sexualité est aujourd'hui au centre de notre quotidien. Il suffit de se promener dans la rue pour le constater. Je dirais que peut-être c'est pas nouveau. Et qu'au temps de l'apôtre Paul, d'une certaine manière, c'était pire. Ce qui explique que l'apôtre ait eu à parler fréquemment de ces sujets. Ce sujet, j'ajouterai, s'adresse à nous tous, quel que soit notre âge. Tout simplement parce que même si il y a une évolution dans la vie au niveau de la sexualité, c'est une évidence, la sexualité ne se borne pas à l'acte sexuel. C'est toute la personne humaine qui est imprégnée par la sexualité. On est homme ou on est femme, on n'est pas les deux, ni l'un ni l'autre. Ou l'un et l'autre à la fois. Et donc, je crois que ce qu'il nous faut, c'est que chacun se place aussi devant la parole, parce que personne ne peut lever le doigt et dire, moi, j'ai vraiment réalisé ce que la parole attend de moi dans ce domaine, qu'on soit célibataire ou, à plus forte raison, qu'on soit en couple. Mais j'ajouterais que le but de cet exposé n'est pas d'entrer dans des situations personnelles ou de s'arrêter sur tel ou tel aspect médical, physiologique, biologique, psychologique, tout ce que vous voudrez. Moi, je suis un chrétien de base et c'est comme tel que je vous présente ce que je crois avoir compris dans la parole de Dieu. Et ce que je souhaite, c'est présenter simplement ce que Dieu attend de son peuple. Quel est le message que Dieu donne à l'homme, et je dirais à tout homme, qu'il soit croyant ou non, dans ce domaine? Parce que le message de Dieu a cette particularité, c'est de s'adresser à tous, et j'ajouterai aux hommes et aux femmes de tous les temps. C'est ce qui fait que la Bible est unique. Toujours dans cette introduction, je dirais que Dieu est l'auteur de la sexualité, et que la conversion à Jésus-Christ ne fait pas de nous des êtres asexués ou inhibés sexuellement. Il faut peut-être le dire, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'Église. Mais la conversion à Jésus-Christ nous ouvre d'autres perspectives et une autre façon de conduire notre vie sexuelle que si nous ne sommes pas croyants. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, et voir qu'effectivement, on est loin sans doute de ce qui est en vigueur dans la société dans laquelle nous vivons. Alors, je suis allé chercher sur ce qu'on appelle, je précise pour ceux qui ne connaissent pas Internet, deux sites, on appelle aussi des moteurs de recherche. Vous tapez un mot et puis vous avez une série de sites susceptibles de vous donner des renseignements sur votre recherche. Je sais pas moi, vous tapez par exemple Darby, là vous allez trouver une vingtaine de sites ou 40, je sais pas, je sais pas compter. Des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui condamnent, des gens qui au contraire défendent. Et voilà, c'est pratique parce que en tapant un mot, vous avez une possibilité d'aller dans des sites pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, vous avez la liste des sites, mais vous êtes évidemment, pour aller plus loin, il faut aller cliquer sur les sites et ouvrir ces sites pour voir ce qu'il y a dedans. C'est un premier point. Et je suis allé sur le moteur de recherche le plus connu, qui est Google. Et je vous le donne en 100 et en 1000. Mais l'année dernière, en 2005, quand j'ai tapé le mot sexualité, j'ai trouvé un peu plus de 900 000 sites. Et en 2006, début 2006, donc c'est pas si vieux que ça, 2 500 000. C'est vraiment de la folie. Je ne crois pas qu'il y ait de mots qui aient aussi progressé, enfin j'en sais rien, je peux pas le dire, mais il me semble que rares doivent être les mots qui ont aussi progressé rapidement en une année. Alors vous savez, chaque site donne un petit résumé pour vous inciter à aller voir et à aller ouvrir ce qu'il y a dedans. Alors évidemment, je n'ai pas ouvert 2 500 000 sites. J'en ai même ouvert aucun. Mais je me suis intéressé aux titres. Et les titres sont très révélateurs de ce qui se passe dans notre société. Quels sont les indices? Qu'est-ce qu'on lit? Plaisir sexuel. Position, éducation. Le plaisir est un jeu. Calculez votre niveau de performance, bien entendu. Améliorez votre relation amoureuse. Bon, j'en passe, j'en ai cité que 3 ou 4. Je suis quand même allé voir un site chrétien fait par les frères, qui s'appelle Phileo. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve des questions que posent les jeunes chrétiens. Et peut-être même des moins jeunes, j'en sais rien. Il n'y a pas évidemment les âges des gens qui posent des questions. Alors des questions comme peut-on avoir des relations sexuelles avant le mariage? S'il y a un véritable amour, le flirt est-il quand même déconseillé? Les attouchements sont-ils la fornication? Dans une société où il y a tant de divorces, comment réussir son couple? Et si on met en parallèle les deux, on s'aperçoit que chez nos jeunes, et ça moi je trouve ça très positif, il y a un souci d'avoir des repères. Il y a une recherche de la norme, un souci de ne pas commettre le péché, un souci de réussir son couple. Et ça, c'est très bien. Maintenant, quelle réponse apportons-nous? Alors, on va se poser la question, quel repère? C'est ce que nous allons voir dans les documents que je vous ai donnés. Alors, je dirais quand même que la Bible, vous le savez, c'est pas un scoop, hein, c'est un livre particulier, c'est-à-dire, c'est pas un livre de morale, ou un manuel d'éducation, je ne sais pas quoi, vous allez trouver un chapitre intitulé Sexualité. Vous allez chercher ça, comme on va dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie, et vous n'allez pas trouver dans la Bible donc des réponses forcément toutes prêtes pour toutes les questions que nous pouvons nous poser. Vous savez, la Bible est une bibliothèque qui a été composée au fil du temps, sur des générations, rassemblant des gens d'horizons très différents, mais qui apporte des éclairages ponctuels dans le domaine de la sexualité, et différents. Et puis des expériences humaines, heureuses, mais aussi, parce que c'est la Bible, beaucoup malheureuses, pour nous mettre en garde, et certaines terribles. Une petite information, vous ne la répéterez pas. Combien de fois Paul mentionne-t-il la sexualité? C'est un des sujets d'ordre moral, et c'est probablement peut-être le sujet d'ordre moral dont Paul parle le plus. 10 fois dans ses épîtres. Et ce n'est pas une petite allusion avec un mot au milieu d'un verset, c'est souvent plusieurs versets. Et moi, ça m'a beaucoup frappé, je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps, je dois vous l'avouer d'ailleurs, en comptabilisant un peu. Et sur 13 lettres, 10 fois la sexualité est mentionnée chez Paul. Ce n'est pas un tabou pour Paul, hein, la sexualité. C'est une réalité à laquelle il faut faire face. Vous savez, Paul, c'est un. Ce qui m'a. Me rend vraiment admiratif de Paul, c'est que c'est un homme de terrain, qui a tellement le souci des âmes, qui veut leur apporter à la fois la saine doctrine dans ce domaine, et en même temps une saine pratique, parce que les deux vont ensemble. Et vous savez, Paul, on pourrait dire oui, mais il en parle un peu comme ça, un peu vite, c'est un peu. Non, pas du tout. Il en parle dans les grandes épîtres doctrinales, Romains, 1 Corinthiens, qu'on appelle l'épître de l'Assemblée. Parler de la sexualité dans ce domaine. Et oui, c'est Paul. Alors peut-être nous avons nous aussi à nous poser des questions sur la façon dont nous gérons ce sujet dans nos églises. Alors, je verrai en bon plan à la française 3 points. C'est ce qu'on m'a appris à l'école et il est difficile de s'en sortir. Premier point, énergie de vie ou le projet de Dieu pour l'humain. Deuxième partie, énergie de destruction ou l'altération par l'homme du projet de Dieu. Et troisième partie, la reconstruction divine. Alors vous voyez que le titre que j'ai choisi est un petit peu différent de celui qu'on avait annoncé. On avait annoncé Bible et sexualité. C'était le titre que j'avais mis à l'origine. Et puis un frère m'a fait remarquer, écoute, c'est quand même pas terrible comme titre. Et donc il m'a suggéré celui-là que j'ai trouvé intéressant. Et donc je le remercie, je l'ai repris. Et ça m'a permis de structurer peut-être un peu mieux mon exposé. Nous verrons donc d'abord des généralités. On va aller évidemment dans le livre de la Genèse. Et puis, je développerai ce que j'appelle océan. Alors, j'ai trouvé ce mot pour qu'il soit un peu mnémotechnique. Comme j'avais affaire à un public de jeunes qui retient facilement les choses. Les cinq règles qui président à la rencontre sexuelle. Donc, l'énergie de destruction. On va voir que la sexualité, depuis la chute, est devenue évidemment ambivalente. Première rupture en Genèse 3. Et aujourd'hui, les ruptures continuent, rupture bisexualité, mariage, sexualité et d'autres ruptures qu'on étudiera d'ailleurs plus tard dans nos rencontres ici. Quelle est la reconstruction divine? Eh bien, dès l'Ancien Testament, on pourrait dire très tôt dans l'Ancien Testament, l'engagement sexuel et sa noblesse et sa grandeur est rappelé au peuple de Dieu. Et puis, il y a tout l'enseignement du Nouveau Testament qui est évidemment celui qui nous concerne le plus directement. Alors voyons cette première partie, énergie de vie ou le projet de Dieu pour l'humain. Donc la première idée, c'est que Dieu a créé l'être humain sexué. Donc je vous lis la version Sommer. Dieu créa les hommes ou l'humain ou le terrien, même pour être littéral, Adam, pour qu'il soit à son image. Oui, il les créa pour qu'il soit à l'image de Dieu. Il les créa homme, Zakar, c'est-à-dire mâle, et femme, Rebecca, c'est-à-dire femelle. Donc, si on veut trouver le sens primitif d'une chose, il faut aller au début, donc à la création, à la source. Et on voit que Dieu est donc l'auteur de la sexualité. C'est pas vraiment un scoop, mais Dieu crée l'homme mâle et il crée la femme femelle, nous dit la parole. Entre parenthèses, ils sont créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire ils sont créés deux, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de relation et de communication chez Dieu pour l'être humain. Dieu ne laisse pas l'être humain tout seul. À l'image de ce qu'est la Trinité, il introduit chez l'homme une relation, disons, entre deux êtres, à la fois d'une certaine manière semblable et d'une autre manière différente. J'ajoute qu'à la fin du premier chapitre de la Genèse, vous le savez, il nous est dit: Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Ça veut dire, il trouva la sexualité très bonne. Peut-être le dire parce que au Moyen-Âge, il y a eu des dérives sur ce sujet, et même avant. Donc on peut, je crois, remercier Dieu pour ce cadeau qu'il nous a fait. J'ajoute qu'on voit bien que la sexualité est d'ordre terrestre. Elle est de l'ordre de la création. Elle n'est pas l'ordre de l'éternité. Quel sens donner à la sexualité? Bien, nous allons à un premier texte. L'Éternel Dieu forma une femme et il l'amena à l'homme et l'homme s'écria